Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 3 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères entame bientôt une tournée officielle en Asie centrale. Les forces armées irakiennes ont découvert et saisi d'importantes quantités de roquettes et du matériel militaire appartenant à Daesh au cours d'une opération antiterroriste dans la province de Kirkouk. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et Jean Castex ont baissé selon un récent sondage et le bilan de l'attaque des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées à Beni en RDC a dépassé les 29 morts, dont des terroristes. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, effectuera bientôt une visite officielle dans 4 pays d'Asie centrale pour des entretiens sur le renforcement de la coopération bilatérale et régionale. Dans un message publié vendredi 2 avril sur son compte Twitter, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que Zarif se rendrait du 5 au 8 avril en Ouzbékistan, au Kirghizistan, au Kazakhstan et au Turkménistan. Renforcer les liens avec l'Asie centrale, une région au point commun, civilisationnel, historique et culturel, a toujours été l'une des principales priorités de l'Iran, a-t-il tweeté. L'Iran est classé 11e au monde dans le domaine de la production d'acier, a annoncé jeudi le ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Ali Reza Razmohseini, lors de la cérémonie de la mise en exploitation des 5 projets nationaux de ce ministère dans 5 provinces du pays, qui s'est déroulée par un décret présidentiel en ligne. Sur ordre du président iranien Hassan Rouhani et en présence du ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce, 5 projets industriels importants ont été mis en exploitation par vidéoconférence ce jeudi 1er avril. Plus d'1,5 milliard d'euros ont été investis pour lancer ces projets. Avec l'ouverture de ces projets, des occasions d'emploi directs ont été créées pour plus de 1 290 personnes. Ces projets ont été mis en œuvre dans 5 provinces iraniennes, Khorasan du Nord, Kerman, Razvin, Semnan et Fars. En Irak, dans la foulée de leurs opérations antiterroristes dans différentes régions du pays, l'armée irakienne a lancé de nouvelles opérations à Kirkouk. Dans le nord, les forces irakiennes ont découvert et saisi d'importantes quantités de roquettes et du matériel militaire appartenant à Daesh lors de leur opération antiterroriste à Dabas. Dans la province de Kirkouk, ont annoncé des forces de sécurité irakiennes. La veille aussi, le jeudi 1er avril, un certain nombre de daéchistes tentaient de s'infiltrer des zones de la province de Diyala, mais les combattants des unités de mobilisation populaire, les Hashd al-Shaabi, leur ont barré la route. Ce vendredi 2 avril, Raisal Khazali, secrétaire général du mouvement Saïb al-Haq en Irak, a annoncé que les opérations de résistance se poursuivraient au cas où les troupes américaines continuaient d'être présentes en Irak. La présence continue des bases militaires américaines n'est pas justifiée et les Américains ne devraient avoir de base nulle part en Irak, ni à Ain al-Assad à Al-Anbar et ni à l'Arir à Erbil, a indiqué Raisal Khazali, le secrétaire général de ce mouvement de résistance irakienne. Nous voulons le retrait des forces étrangères et l'application de la Constitution, et ce n'est pas la demande d'une religion ou d'un groupe en particulier, a-t-il réitéré en rappelant au gouvernement irakien, susceptible d'engager un dialogue stratégique avec les États-Unis, que le maintien de la présence des occupants américains est rejeté. Le ministre yéménite de la Défense du gouvernement de salut national a déclaré que les capacités militaires actuelles du Yémen n'étaient nullement comparables aux capacités dont il disposait il y a 6 ans. Si la coalition d'agression saoudienne continue d'attaquer le Yémen, nous opterons pour la stratégie de grande douleur. Les combattants yéménites ont pu appliquer des stratégies et des techniques militaires qui ont surpris les forces de l'ennemi sur les champs de bataille, a souligné le ministre yéménite Mohamed Nasser al-Atifi, et de continuer. Pendant les premières années après le début de la guerre, les forces armées yéménites ont commencé à rénover et optimiser leurs armes et équipements. Elles ont produit des armes, des poids légers et moyens destinés à assurer une dissuasion stratégique. Il a souligné que les missiles balistiques et les missiles à ailes, ainsi que les drones et les systèmes de défense anti-aérienne et maritime avaient aidé les combattants yéménites à passer à l'offensif au lieu de défensif. En Syrie, les forces d'occupation américaines poursuivent le renforcement de leurs bases illégales dans les gisements de pétrole et gaz dans les zones syriennes d'Al Jazeera et ils ont fait entrer des équipements militaires, des armes et des renforcements logistiques au gisement de Konikor dans la banlieue de Deir ez-Zor. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de l'agence de presse officielle syrienne Sana qu'un convoi composé de véhicules chargés d'équipements, de matériel logistique et d'armes affiliés aux forces d'occupation américaines était entré dans la base illégale de l'occupation au gisement de Konikor dans la banlieue nord-est de Deir ez-Zor. À Hasaka et à Raqqa, les FTS, forces démocratiques syriennes soutenues par les forces d'occupation américaines, ont kidnappé 70 civils lors de leur campagne continue contre le camp d'Alol. Ils ont poursuivi pour le 6e jour consécutif les campagnes de perquisition au camp d'Alol à l'est d'Hasaka, pendant lesquelles ils ont enlevé 70 civils et les avaient conduits à une destination inconnue. Par ailleurs, les sources locales ont indiqué qu'un groupe armé affilié à la milice des FTS avait pris d'assaut une maison au village d'Al-Sabi et frappé son propriétaire et enlevé 4 membres de sa famille, dont un enfant, faisant savoir qu'elle avait également volé 20 moutons pour les transporter vers la ville de Shadadi au sud de Hasaka. Dans la banlieue de Raqqa, des sources locales ont souligné à Sana qu'une femme avait été blessée du fait d'une attaque menée par les FTS qui l'avaient frappée après avoir pris d'assaut une maison d'un civil dans la ferme d'Oazima, au nord de Raqqa. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et Jean Castex ont baissé ce mois-ci, montre un récent sondage, une chute que le HuffPost explique par la manière dont le gouvernement gère la crise sanitaire. Alors que le gouvernement est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise du coronavirus, le chef du gouvernement, Jean Castex, continue à perdre en popularité. Selon le baromètre réalisé par YouGov pour le HuffPost et dévoilé le vendredi 2 avril, sa cote de popularité a baissé de 2 points ce mois-ci pour atteindre son plus bas niveau de 25% d'opinion favorable. Malgré une hausse significative auprès de la droite modérée et une petite hausse auprès des sympathisants de l'extrême droite, le chef du gouvernement plonge auprès des autres franges de l'opinion, indique l'Institut de sondage, notant que le Premier ministre a également perdu 1 point auprès des centristes, le noyau de cible électorale de la Macronie. Selon le baromètre, la popularité du président dévisse de 3 points et atteint 30% de popularité, une chute plus importante qu'au mois de mars lorsqu'il a perdu 1 point. La glissade est d'autant plus importante qu'elle s'observe sur toutes les franges de l'opinion, y compris chez les sympathisants du centre. Le HuffPost précise que le sondage a été mené du 29 au 30 mars, soit avant l'annonce du 3e confinement, faisant comprendre que la chute aurait pu être encore plus plus importante. Face à une troisième vague brutale, le chef d'État a été contraint d'annoncer un nouveau confinement alors qu'il avait pensé éviter ce retour en arrière en faveur des mesures plus ciblées et adaptées à chaque région selon la situation épidémique. En RDC, plusieurs centaines de jeunes ont menacé vendredi de se faire justice eux-mêmes face au groupe armé des ADF, Forces démocratiques alliées, accusés du massacre de centaines de civils à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, armés de machettes, de haches, d'arcs et de flèches, ou encore de lances et de bâtons. Près de 300 jeunes, dont certains portés à mulettes et gris-gris, sont sortis du centre-ville pour traquer, disait-il, les ADF, dans leur fief en brousse, en forêt et dans la jungle environnante. Le bilan de l'attaque des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a dépassé les 29 morts, dont des terroristes ont annoncé jeudi des sources sécuritaires. Par ailleurs, au moins une cinquantaine de civils ont été pris en otage. Plusieurs maisons ont été aussi incendiées. Dans ce contexte de recrudescence des attaques de groupes armés, la RDC a demandé une coopération avec l'armée rwandaise ainsi qu'avec les autres forces armées des pays de la sous-région des Grands Lacs pour combattre et neutraliser les différents groupes rebelles et milices armées opérant sur son territoire et dans les autres pays. Actifs dans cette partie du pays depuis des décennies, les ADF ont multiplié leurs attaques depuis le début de cette année sur le territoire de Beni, mais aussi dans une partie de la province voisine de l'Ituri. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Que cherche la Chine en Iran? Le pétrole? Pas seulement. Expliquant les motifs de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, jeudi dans la région d'Asie occidentale, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin ne poursuivrait jamais d'objectifs égoïstes ni aucune sphère d'influence ou de militarisme dans la région d'Asie occidentale. La responsable chinoise a affirmé qu'au lieu de cela, la Chine défend l'esprit de partenariat amical et égal tout en respectant les choix des pays de la région. Et pourtant, les États-Unis sont terrorisés à l'idée d'une Chine alliée de l'Iran et présente au Moyen-Orient. Pourquoi ? Nous aidons les pays de la région à sortir de l'ombre de la rivalité géographique des grandes puissances et mettre en place des solutions afin de résoudre les différends et les divergences régionales, a tweeté la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les propos interviennent au milieu des polémiques sur la signature du document d'une feuille de route de 25 ans par Téhéran et Pékin qui, pour Ilan Berman, vice-président du groupe de réflexion American Foreign Policy Council, place clairement la République islamique au sommet de la mission régionale de la Chine de manière à permettre à terme un renforcement significatif de la puissance de l'Iran. Dans une note publiée le 29 mars, Ilan Berman indique que l'accord montre également que l'empreinte régionale de la Chine est en train de changer au cours de la dernière demi-décennie. Pékin s'est pratiquement concentré sur l'expansion de son influence au Moyen-Orient grâce à des investissements économiques, un soutien politique aux gouvernements régionaux et même des contacts profonds avec les armées locales. Sans aucun doute, une partie de cette attention est, selon Ilan Berman, liée à l'initiative chinoise d'une ceinture et une route qui est un réseau de projets d'infrastructures et d'accords commerciaux via lesquels Pékin cherche à remodeler l'ordre mondial. Faisant prévaloir les efforts de la Chine au Moyen-Orient, il ajoute qu'alors que les États-Unis sont de plus en plus distancés au niveau des affaires régionales ces dernières années, le vide politique qu'il a lui-même développé a donné la possibilité à Pékin de s'infiltrer. Plus loin dans son article, Berman indique que jusqu'à présent, à titre d'exemple, les relations proches entre Téhéran et Pékin, pour des raisons historiques, ont toujours été contrebalancées par la proximité de Pékin avec des États du Golfe Persique. Ces pays, à leur tour, ajoute-t-il, ont largement bénéficié des investissements massifs chinois et n'entendent donc pas se soumettre à l'appel de Washington à choisir entre la Chine et les États-Unis dans la course aux grandes puissances. Berman de poursuivre que cependant, le nouvel accord entre la Chine et l'Iran pourrait désormais bouleverser cet équilibre. L'accord ayant également envoyé un message selon lequel Pékin a choisi la République islamique d'Iran comme partenaire dans la région. Soulignant l'inquiétude des États de la région quant au renforcement des coopérations Téhéran-Pékin, Ilan Berman conclut en suggérant aux autorités de Riyad, Abu Dhabi et dans d'autres capitales du Moyen-Orient de faire preuve de prudence et de forcer Pékin à divulguer les détails de son nouvel alignement stratégique avec l'Iran. Selon lui, les États du Golfe Persique devraient également réviser leur partenariat avec Pékin, compte tenu des liens économiques, politiques et militaires croissants de la Chine avec un pays rival, à savoir l'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et débat. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, c'est Hassan Nasrallah, a prononcé qui est un discours très important, des discours dans lequel il a en fait évoqué les dernières évolutions sur la scène internationale et les grandes nouvelles orientations de l'administration américaine. S'agissant en fait des désorientations de la nouvelle administration américaine, c'est Hassan Nasrallah a dit que voilà, la politique de l'administration Biden consiste à de se concentrer désormais sur la Chine et la Russie. À propos de l'Iran, c'est Hassan Nasrallah a souligné que l'Iran est sur le point de franchir l'étape de l'embargo et des sanctions, ce qu'il a refusé de donner sous les sanctions extrêmes et la menace quotidienne de guerre, l'Iran ne le donnera pas aujourd'hui, a martelé Hassan Nasrallah qui a conseillé en fait aux alliés des États-Unis dans la région de ne plus attendre les États-Unis ni le monde ni les évolutions et d'entreprendre des dialogues internes et régionaux pour régler nous-mêmes nos problèmes. Et s'agissant du deal du siècle, Hassan Nasrallah a dit que voilà, ce deal du siècle a été mis en échec grâce à la vaillante résistance du peuple palestinien. Et s'agissant de la proposition faite par les Saoudiens et les Américains aux Yéménites, Saïd Hassan Nasrallah l'a qualifié d'imposture. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous. Bonjour à votre invité. C'est toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develay, c'est une analyste franco-syrienne qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Bonjour à Monsieur Develay.
Merci beaucoup. Madame Midani, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Comment expliquez-vous ce récent discours de cet Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, s'il vous plaît?
En fait, va tout à fait dans un sens, comme d'habitude d'ailleurs. Il fait une analyse de la stratégie mondiale, et puis de l'évolution sur le terrain. En fait, ces derniers jours, il a fait plusieurs discours à plusieurs occasions, l'occasion du jour du martyr et l'occasion du décès en fait de l'imam Ahmad Zayn. En fait, il a mis en avant effectivement le fait que d'abord les forces de l'axe de la résistance sont des forces montantes, les forces américaines, les forces de l'hégémonisme mondial, qui sont les Américains, l'OTAN et leurs alliés, sont des forces descendantes, déclinantes. Et donc, ils conseillent à leurs alliés dans la région, en fait, et au Liban, de ne pas attendre effectivement les évolutions et qu'il y ait vraiment un changement de situation mondiale, puisque le changement est déjà bel et bien amorcé. Et donc, il faut qu'ils tirent les conclusions des tendances et qu'aujourd'hui, il est important de revoir leur position et puis de se dépêcher de faire les de construire un gouvernement et puis de se mettre à la reconstruction du Liban avec les alliés de l'avenir, les alliés de demain. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il a parlé effectivement de toutes les diversions qu'essayent de mener les pays occidentaux, notamment les pays américains, de l'OTAN et Israël. La diversion entre différentes obédiences musulmanes qu'ils n'ont jamais cessé d'essayer de créer les diversions entre les différentes obédiences, composantes, etc. de nos populations. Il est important d'en prendre conscience et de ne pas laisser faire. Hein. Et puis de voir que toutes ces divisions sont faites pour affaiblir nos pays et pour éviter qu'ils s'unissent et pour éviter qu'il y ait une véritable force arabe face à Israël. Et puis aussi, en fait, il a parlé des forces de l'avenir, que de toute façon, nous sommes... notre histoire vous a montré que de toute façon ce n'est pas le nombre et l'équipement qui fait gagner les combats, c'est plutôt la foi et la décision. Donc c'est une véritable décision politique et une détermination, la détermination des peuples à la résistance qui font les victoires et les succès. Donc, ça, c'est très important aussi que vous en teniez compte et que aujourd'hui, de vous dépêcher, de prendre le bon côté, en fait, il disait ça à toutes les forces en présence au Liban. Il faut savoir quand même qu'il y a des forces politiques libanaises qui sont pro-américaines et qui sont aussi pro-israéliennes et qui agissent depuis toujours, qui agissent contre l'indépendance du Liban. Donc tout ceci, c'est vraiment très très important. Il a parlé aussi de l'ensemble du conseil des imams des pays des musulmans, en fait, notamment le conseil, les imams sunnites qui ont joué un très grand rôle contre cette volonté de créer non seulement la discorde mais la fitna entre sunnites et chiites, entre chrétiens et musulmans, etc. Donc il a vraiment fait un grand éloge de l'imam Ahmad Zayn et de l'imam Badreddin Hassoun et de l'imam en Syrie qui a été tué aussi en 2013. Donc toutes ces forces et toutes ces personnes loyales au pays, loyales à l'islam dans tous ces principes. Bon, ils ont aidé à lutter et à résister contre ces forces de diversion. Il a aussi ajouté que de toute façon, la Ce qui est arrivé à la Syrie, et lui est arrivé parce que c'est un pays qui soutient la résistance palestinienne, qui soutient la résistance et qui soutient l'ensemble des pays arabes, des peuples arabes, face à Israël, qui n'ont jamais accepté ni de reconnaître l'État d'occupation sioniste, ni d'accepter le fait accompli de l'occupation. C'est pour ça ce qui est arrivé à la Syrie. Et en fonction de sa position de résistance, de son soutien à la résistance palestinienne, libanaise, etc., mais aussi en fonction aussi de ses liens avec la révolution iranienne, avec l'Iran, l'Iran est sous embargo et persécuté par les Américains depuis la révolution d'Ayatollah Khomeini. Tout ceci a été vraiment dans un discours très détaillé, je dirais, au niveau à la fois de la stratégie de la politique des forces occidentales et des forces mondiales, que de toute façon aujourd'hui les Américains sont beaucoup plus intéressés aussi par occuper la mer de Chine, etc. Et qu'il dit aux alliés des Américains, ils vont vous abandonner, comme ils ont abandonné les gens qui ne leur servent plus aussi. Rappelez-vous, le Shah d'Iran était de leur côté, mais en fait, quand il y a eu la révolution, ils l'ont même pas accepté comme réfugié politique chez eux. Donc, ils l'ont jeté comme un rien. Donc, ça vous arrivera à vous. Donc, tirez les leçons de l'histoire. Et puis, nos alliés, en fait, nous aident et sont complètement... ils ne cherchent pas du tout à nous dominer. Ils cherchent à nous aider, à nous mettre debout. Et c'est vrai, il est certain qu'aujourd'hui, nos forces, les forces de l'ensemble du front de la résistance sont beaucoup plus importantes qu'elles n'ont jamais été. Et il n'y a pas lieu d'avoir ni d'accepter des conditions, ni de baisser la garde. Et c'est Israël qui a toutes les raisons d'avoir peur, parce que c'est elle qui est faible, c'est elle qui est divisée, etc. Donc il a aussi
Merci beaucoup. Monsieur De Volet, votre lecture, s'il vous plaît, votre analyse à propos de ce discours de cet Hassan Nasrallah, s'il vous plaît.
Alors, de toute évidence, le discours du secrétaire général de la résistance libanaise était un discours, comme d'habitude, détaillé, complet, multidimensionnel, rassurant, il faut le souligner, et qui porte vers l'avenir. Parce qu'il faut parler de l'avenir maintenant, dans le contexte des relations internationales de manière générale et dans le contexte du contexte régional. Et ce, après plus d'une décennie de tentatives de déstabilisation de tous les pays de la région, en fait même 20 ans, hein, depuis le 11 septembre, hein, n'oublions pas le 11 septembre, c'est une date séminale. Le secrétaire général de la résistance libanaise a fait un bilan dans un premier temps où il a passé en revue tous les théâtres d'opération, que ce soit au Yémen, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, et il a remis, effectivement, recontextualisé ce qui semblait être présenté par les médias mainstream comme étant un conflit interconfessionnel, en fait, en tentative de création artificielle d'une fitna. C'est le mot, effectivement, qui doit être utilisé de manière à diviser la région au service d'un projet colonial et impérialiste. Ce faisant, il a tenté de rassurer, au milieu de toutes les rumeurs qui circulent, l'opinion publique. En place, c'était un discours d'homme d'État. Il a pointé du doigt les grandes orientations, avec une insistance sur l'importance de rester, de garder le cap, pointant du doigt qu'effectivement, les ennemis de la région sont sur la pente déclinante, et que si cet état de fait est aujourd'hui souligné, ce n'est pas tant eu égard au fait que ils sont eux-mêmes, ces ennemis de la région, devenus faibles par la force des choses, mais parce que effectivement la région a su rester au travers de sa composante de la résistance déterminée, patiente et coordonnée dans ses efforts. Donc c'était un discours dans ce sens qui s'inscrivait dans les discours précédents portant sur une réorientation géopolitique des pays de la région vers l'Est, parce que c'est quand même ça en ligne de fond ce qu'il faut retenir du discours, avec l'émergence d'un axe eurasiatique au-delà de l'axe de la résistance. L'axe de la résistance n'est qu'une composante d'un ensemble plus large qui a vocation à créer un espace politico-économique qui permettra à la région non seulement de prospérer économiquement et profiter de ses propres ressources pour financer son avenir, mais aussi d'un ordre géopolitique qui permettra de raffermir l'indépendance des États qui composeront ce nouvel ensemble. Donc, il a évoqué en cela la situation en Iran dans le contexte de l'accord stratégique signé entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine. Il a évoqué la puissance émergente du Front du Salut au Yémen, en laissant entendre que cette nouvelle composante de la résistance aurait un rôle probablement fondamental à jouer à l'avenir. Il a souligné l'importance des échanges bilatéraux, que ce soit entre le Liban et l'Irak, entre le Liban et la Syrie, sur des dossiers ponctuels, de façon à construire une dynamique qui puisse ensuite mener à une fluidité des échanges accrue. Et en ce sens, c'était un discours, encore une fois, rassurant, stable, cohérent avec tous les discours qu'il a prononcés auparavant. Et dans ce sens-là, c'est important de souligner le calme, le ton calme et le ton serein au milieu de toutes les rumeurs qui peuvent circuler de nos jours concernant la déstabilisation de la région et son avenir.
Madame Mehmidani, vous l'avez dit, Maître de Volley également vient de le souligner, c'est Hassan Nasrallah a parlé de cette de réorientation, si vous voulez, de politique, et surtout des pays de la région, vers l'Est. En quelque sorte, il a évoqué cette nouvelle réorientation aux politiques du monde, parce qu'il l'a souligné, les États-Unis se concentrent désormais sur la Chine et la Russie, et le Moyen-Orient n'est plus, selon cet Hassan Nasrallah, une première priorité pour la nouvelle administration américaine. Et c'est dans ce sens que cet Hassan Nasrallah a de qualifié d'imposture cette proposition faite par l'Arabie Saoudite aux Yéménites, en disant que les Yéménites ne vont pas se laisser duper par cette, si vous voulez, de soi-disant proposition saoudienne. Et c'est dans ce sens que cet Hassan Nasrallah a dit que voilà, il n'est pas question pour l'Iran de se laisser, si vous voulez, intimider par une politique de sanctions et de menaces. Et dans l'état actuel des choses, il n'est absolument pas question pour l'Iran de se soumettre, si vous voulez, à la volonté des États-Unis et de leurs alliés régionaux. Et c'est dans ce sens que c'est Hassan Nasrallah, en s'adressant aux alliés régionaux des États-Unis, a dit qu'il ne faut pas, en fait, que vous perdiez votre temps, Madame Mehmidani.
Exactement. En effet, alors la proposition, en fait, il montre, il a bien dit que de toute façon, la proposition saoudienne est une véritable imposture, parce que de toute façon, ils ne proposent rien, ils veulent juste cesser le feu pour geler les opérations, pour reprendre par la paix ce qu'ils n'ont jamais pu reprendre par la guerre. Donc casser ou soumettre la souveraineté du Yémen qui est triomphant et qui, malgré toute cette guerre de destruction intense depuis 2015, le Yémen arrive à non seulement triompher, mais arrive à vaincre, à aller jusqu'au fin fond de l'Arabie Saoudite et des sources importantes de ravitaillement de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il a invité effectivement, il a mis l'accent sur le fait que tous ces pays qui ont couru pour construire des relations d'amitié avec Israël, ils sont complètement mal aujourd'hui, puisque de toute façon la construction était basée sur trois côtés du triangle, comme ils disaient. C'est sur Trump, et Trump n'est plus au pouvoir aux États-Unis, sur Netanyahou, et qui est dans l'entité d'occupation et qui est en train de chavirer de tous les côtés, et fort probablement il est en grande difficulté, mais il ne voulait rien prédire de son avenir. Et puis le troisième, c'était sur Mohammed bin Salman, qui est lui aussi en grande difficulté, y compris par ses alliés américains. Donc Biden n'arrête pas de déclarer que de toute façon Mohammed bin Salman est impliqué dans différentes histoires, et qu'aujourd'hui donc il n'est plus l'allié qu'il faut. Ça, c'est un côté. L'autre côté, en me disant aussi, de toute façon, nous sommes forts et nous avons nous, en tant que pays arabe, nous avons tous les mots de la région, nous avons tous les moyens d'être très forts, nous avons une complémentarité économique, nous avons une complémentarité géographique, nous avons à aller vers nos voisins, à nous ouvrir vers nos voisins de la région, construire des relations à la fois économiques, politiques, etc., et aussi de construction commune, etc. Ça nous permettra effectivement de gagner en matière d'économie et de résister aussi à toutes ces forces hégémoniques, mais aussi ça nous permettra de complémenter nos économies et de résister à toutes les agressions qui nous viennent de cet axe de l'hégémonisme.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Devolet, maître Devolet. Il nous reste une minute au maximum, 2 minutes devant nous pour cette émission. Et je vous remercie de boucler notre débat d'aujourd'hui.
Bien, écoutez, il faut garder le cap. Hein. C'est ce qui ressort du discours plus qu'autre chose. La situation globale et dans toutes ses composantes suit son cours. C'est un processus qui prend du temps, parce qu'on parle de nations, on parle de blocs, on parle d'une alternance en termes d'arrangements géostratégiques et de relations internationales au sens large, certainement sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais que le chemin reste long, et qu'il faut rester vigilant et surtout ne pas agir à l'emporte-pièce. Analyser la situation de manière rationnelle, en restant fidèle aux principes qui ont fait qu'aujourd'hui, l'axe de l'hégémonie, effectivement, est sur le recul, mais que, malgré tout, il faut garder à l'esprit que, si je puis dire, la bête n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle est mortellement blessée.
Maître Arnaud Devolet, juriste français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Midani, Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrienne, qui a été avec moi en ligne pour cette émission depuis Paris. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Focus. La nouvelle administration américaine n'a jusqu'à présent pris aucune mesure sérieuse et pratique pour revenir à ses obligations liées à l'accord nucléaire de 2015. Elle a réaffirmé que l'approche de l'ancien gouvernement dirigé par Donald Trump était erronée et que la pression maximale contre l'Iran n'a pas marché. Elle a reconnu que ce n'est pas la guerre, ni la pression, et ni les sanctions qui nous sortiront de la crise, et que la seule solution pour sortir de l'impasse actuelle et la diplomatie négociée. La nouvelle administration américaine a reconnu tout cela, mais en verbe, et toujours pas dans la pratique. Nous ne voyons aucun geste concret des diplomatiques de leur part. En pratique, c'est la poursuite de la politique des sanctions et des pressions. Dans la pratique, nous ne voyons aucun geste sérieux, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Dans une partie de son discours, le président Rouhani s'est attardé sur la question des sanctions et a souligné « Tant que Trump est au pouvoir, le monde entier savait que cet homme, à l'origine du retrait de l'accord nucléaire et de la réimposition des sanctions anti-iraniennes, est responsable de l'impasse et de la tension politique. » Le président Rouhani a mis en garde contre les tentatives de la nouvelle administration américaine et de cette machination potentielle visant à manipuler l'opinion publique mondiale et a suggéré que c'est Téhéran qui n'est pas prêt à négocier et non Joe Biden. Le président Rouhani a qualifié de mensonge les déclarations depuis Washington selon lesquelles il leur faudrait de quelques mois pour lever les sanctions anti-iraniennes et revenir au respect de l'accord nucléaire de 2015. Les Américains mentent quand ils disent qu'un retour à leurs engagements et la levée des sanctions prendra 2 à 3 mois. Cela peut se faire avec un seul décret et en une heure, a précisé le président Rouhani. Tout ce dont ils ont besoin, c'est la volonté de le faire. Et s'il y a une volonté sérieuse, les États-Unis peuvent revenir à toutes leurs obligations en une seule journée, a souligné le président Rouhani. La confrontation avec l'Occident a touché le fond. Les États-Unis jouent avec le feu, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Et le chef de la diplomatie russe a déploré que l'Occident ait rendu courant le terme « guerre » dans les échanges internationaux, entraînant la détérioration des relations avec la Russie qui sont actuellement au plus bas. La confrontation entre l'Occident et la Russie a touché le fond, mais Moscou espère que tout le monde comprend les risques que cela représente, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. D'une part, la confrontation a touché le fond. D'autre part, il y a l'espoir que tout le monde est adulte
et comprend les risques associés à l'escalade de la tension, a-t-il souligné. Selon Sergei Lavrov, l'Occident a introduit le mot « guerre » dans l'usage diplomatique international, alors que ses relations avec la Russie continuent de se dégrader. La guerre hybride déclenchée par la Russie est une phrase fréquemment utilisée qui décrit ce que l'Occident considère comme l'événement principal de la vie internationale. Mais j'espère que de la raison triomphera, a ajouté le chef de la diplomatie russe. Commentant les sanctions adoptées par les États-Unis contre Moscou et les projets d'extension de l'OTAN vers l'Est, Sergei Lavrov a estimé que les États-Unis jouaient avec le feu et pratiquaient l'absurde. L'hégémonie des États-Unis étant délinquance de la situation au Liban n'est pas désespérée. L'initiative de Riyad au Yémen est une imposture, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. Il a déclaré que l'hégémonie des États-Unis dans la région est en délinquance et leur priorité sont la Chine et la Russie et non plus la région excepté d'Israël, proposant à leurs alliés régionaux de régler leurs problèmes avec les autres acteurs régionaux aujourd'hui mieux que demain, a souligné Seyed Hassan Nasrallah. Seyed Hassan Nasrallah a tenu ses propos dans un discours prononcé lors de la cérémonie de condoléances pour l'éminent religieux libanais Cheikh Ahmad Zain, décédé le mois passé et à qui il a rendu un grand hommage pour sa constance et son soutien indéfectible à la résistance contre le projet sioniste et son ferme soutien à la cause de la Palestine de la mer au fleuve. Les États-Unis ne veulent pas que l'Iran fasse front commun avec la Chine et la Russie, a-t-il souligné. Évoquant les dernières évolutions sur la scène internationale et les grandes nouvelles orientations de l'administration américaine, il a souligné que cette dernière accorde désormais sa priorité à la Chine et à la Russie. L'administration américaine ne voudrait surtout pas que l'Iran fasse front commun avec la Chine et la Russie, a-t-il fait remarquer. Selon lui, l'Iran est sur le point de franchir l'étape de l'embargo et des sanctions, ce qu'il a refusé de donner sous les sanctions extrêmes. La menace quotidienne de guerre, l'Iran ne le donnera pas d'aujourd'hui, a-t-il conclu. Les alliés régionaux des États-Unis devraient savoir que les priorités des États-Unis ne se trouvent plus dans notre région, à l'exception d'Israël. Leur hégémonie est en délinquance, a-t-il souligné. Il a conseillé à ses alliés de ne plus attendre les États-Unis, ni le monde, ni les évolutions, et d'entreprendre des dialogues internes et régionaux pour régler nous-mêmes nos problèmes, a-t-il souligné. Et de conclure sur ce dossier, les alliés des États-Unis devraient réviser leurs calculs. Aujourd'hui, c'est mieux pour eux que demain. La Syrie a critiqué la tenue de la soi-disant conférence Bruxelles V sans inviter le gouvernement syrien, affirmant le rejet de cet événement et l'illégitimité de ses résultats. La République arabe syrienne critique la tenue de cette conférence pour la cinquième fois sans inviter le gouvernement syrien. La partie concernée par les affaires du peuple syrien est le principal partenaire de l'ONU et de la communauté internationale dans l'action humanitaire humanitaire en Syrie, a affirmé dans un message adressé au secrétaire général de l'ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères. Le ministère syrien des Affaires étrangères a ajouté que la participation de l'ONU à la présidence de cette conférence, en absence du gouvernement raid syrien concerné, représentait une violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qui appellent au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne. Et le ministère de poursuivre l'imposition de davantage de mesures coercitives et unilatérales par l'Union européenne et les États-Unis et leur renouvellement automatique en dépit de leurs effets négatifs simultanément avec la propagation de la pandémie COVID-19 et l'organisation de même que de cette conférence reflète une hypocrisie dans leur manière de traitement avec la situation humanitaire en Syrie, conclut dans son communiqué le ministère syrien des Affaires étrangères. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.